Bonsoir, bienvenue aux Apatrides Anonymes, votre rendez-vous radiophonique normalement bimensuel, mais l'été on se relâche un peu, on parle de phénomènes migratoires et tout ce que ça implique de près ou de loin, que ce soit les dérives autoritaires et sécuritaires, le racisme ordinaire ou systémique, le populisme, les fausses nouvelles, les lois et les programmes qui fonctionnent pas, et on navigue toujours à la fois du très local vers l'international. Je m'appelle Simon, je vais animer cette édition du 22 août 2024 pour la prochaine heure et 10, et en plus d'animer, j'aurai des actualités britanniques pour vous un peu plus tard. Marie-Ève est absente cette fois-ci, petite vacances qu'on lui souhaite très agréable malgré la pluie. Je suis en compagnie de Mathieu, à la mise en onde des chroniqueurs aussi aujourd'hui. Salut Mathieu.
Bonsoir Simon, et on revient après une émission d'absence. Ça fait 4 semaines qu'on n'a pas fait de radio.
Eh oui, on se relâche pas mal.
Ben on s'amuse.
c'est la rentrée bientôt, on va être plus réguliers. Tu nous as préparé 3 segments d'actualité. D'abord, un bloc sur le racisme bien de chez nous.
Oui.
Ensuite, tu nous parles d'enjeux autochtones, non pas autochtones d'ici, mais autochtones aux États-Unis et en Colombie.
Et en Équateur.
Et oui. En Équateur, parfait. Et tu nous amènes à Paris, non pas un bilan des Olympiques en tant que tel, là, du sport ou du tout le fla-fla qui va autour, mais bien de sujets très sérieux, mais en lien direct ou indirect avec les Olympiques à Paris et en France.
Oui, et les migrants, évidemment, beaucoup à Paris, toutes les conséquences que ça a eues.
Qui ont été bien tassés, on l'a un peu oublié. Exactement, dans les dernières semaines, donc j'ai bien hâte d'entendre tout ça. On aura évidemment des nouveautés musicales, mais le moment fort de cette édition, c'est une entrevue avec Bifan Soun, journaliste à Pivot. Salut Bifan.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui.
Oui, merci d'être venu. On te retrouve dans quelques minutes. Donc, tu couvres dans Pivot des enjeux assez semblables à nos thématiques habituelles ici aux Apatrides. On va essayer de faire un état des lieux de ce qui se passe au Québec en lien avec l'accueil et le traitement des personnes immigrantes ou racisées et autochtones aussi. Et si on a le temps, un bilan de santé des médias indépendants au Québec, donc bien hâte de te parler dans quelques secondes. Je vous rappelle qu'on est aux Apatrides Anonymes sur choc.ca. On retrouve Bifan Soun dans une petite minute. Donc, salut Bifan. Tu es une jeune journaliste qui a été amenée à écrire sur le racisme, notamment pour participation au projet qui s'appelle Différent DS, là, sur le terrain des luttes antiracistes qui est soutenu par la Fondation canadienne des relations raciales. Peux-tu nous parler un peu de ce projet-là, du projet en tant que tel et de ton mandat dans le cadre de ce projet-là?
Oui. D'abord, merci de m'avoir invité.
Ben merci d'être là, vraiment.
Donc c'est ça, comme tu disais, je suis plutôt journaliste en début de carrière. Mm-hmm. Et je suis engagée par Pivot pour couvrir des sujets d'actualité liés au racisme ou bien tout simplement sujets qui touchent les groupes racisés.
Ça donc, peut être toutes sortes de discriminations, des programmes.
C'est ça. Puis ce projet fait partie d'une demande de subvention auprès de la Fondation canadienne des relations raciales. Donc, Pivot, en fait, couvrait déjà régulièrement des sujets en lien avec le racisme,
effectivement, oui.
Avec l'immigration et le colonialisme. Donc, cette subvention permet de recruter un ou une journaliste issue de communautés racisées comme moi. Mm-hmm. Donc, je suis engagée dans ce contexte pour un mandat de 10 mois.
OK.
Donc, et aussi, il y a des fonds qui seront alloués aux piges et aux chroniques autour des mêmes sujets. Et pendant ce mandat, moi, avec d'autres boursiers et boursières venant de différents médias indépendants à travers tout le Canada, on forme genre une cohorte. Donc, on se rencontre régulièrement en ligne pour parler de nos travails.
Okay.
Donc, on est tous comme des journalistes de début de carrière. Donc, c'est dans cet esprit de solidarité, de partage, pour briser l'isolement en tant que journaliste racisé. Puis Journalists for Human Rights organise aussi des formations et fournit des ressources adaptées aux besoins des journalistes racisés et autochtones.
OK, ben c'est intéressant, une genre de collégialité finalement qui se crée entre les différents jeunes journalistes, il faut le mentionner, qui en sont à leurs premières armes professionnelles, je ne sais pas si on peut dire.
Oui, c'est ça. Donc l'idée est vraiment d'équiper les journalistes racisés avec des ressources, avec des contacts et aussi de partager des connaissances entre nous, de parler des difficultés qu'on a rencontrées dans notre travail. Donc, et
en
aussi
tant que
pour,
personne racisée spécifiquement?
Oui, c'est ça.
OK.
Oui.
Et est-ce que vous... vous êtes plusieurs... Tu as l'air d'être une des plus prolifiques, je crois, parmi le groupe, parce que tu as déjà signé plusieurs articles, même quasiment la moitié, je pense. Mais je sais pas, entre vous, est-ce que vous vous dites, moi, j'aimerais traiter tel sujet, tel autre journaliste, dis-moi aussi, donc question qu'il n'y a pas de doublons, et pour vous aider, tu dis partager les connaissances aussi.
Ah, OK. En fait, je parle de d'autres journalistes. C'est des journalistes qui viennent de d'autres médias,
okay.
D'autres médias indépendants.
Qui font du mentorat un peu. Là,
oui, c'est ça.
OK. Ouais. Si tu veux, on va donner quelques titres d'articles que tu as écrits. Ça va donner une idée aux gens, les sujets qui ont été abordés, puis on les invite très fortement à aller les lire sur pivot.québec aussi. En même temps, peut-être l'exercice qu'on pourrait faire, c'est voir s'il y a du nouveau par rapport aux sujets qui sont abordés dans ces articles-là. Par exemple, le gouvernement Legault fait piètre figure en matière de relations avec les peuples autochtones. Je crois que ça n'a pas vraiment changé.
Ouais,
c'est
ça
toujours un peu la même chose. Un autre article, je trouvais intéressant, explosion des amalgames entre immigration et crise du logement dans les médias. Donc, non seulement dans les médias, mais beaucoup de personnages politiques aussi.
Oui.
Même jusqu'à cette semaine, on entendait le chef du PQ redemander à ce que Ottawa enlève l'immigration temporaire parce que ça mettrait du poids sur les services publics et sur la crise du logement.
Mm-hmm.
Et comme tu mentionnais tantôt...
C'est sur le français.
Sur le français, la menace au français,
oui.
Évidemment. Autre titre, les gouvernements reculent face aux besoins croissants de protection des réfugiés. Ça, c'est quand même une synthèse plus générale, je dirais.
Mm-hmm. Récemment, oui. Je pense que le gouvernement du Québec a encore une fois demandé à Ottawa de resserrer les visas pour certains citoyens, pour des citoyens venant de certains pays comme... de l'Inde ou du Bangladesh, je pense. C'est aussi encore un obstacle bureaucratique à la quête de refuge pour certains demandeurs d'asile.
Oui, effectivement, c'est bien de le rappeler. C'est un sujet qui nous passionne ici aux Apatrides depuis à peu près 2 ans, régularisation des personnes sans papier, pas pour bientôt et pas pour tous. Donc la fameuse promesse qui a été faite avant l'élection la dernière élection fédérale d'un programme de régularisation massif qui ne s'est jamais concrétisé. Il y a eu quelques progressions, quelques avancées dernièrement, je crois.
Oui. Je pense que il y a quelques jours, Mark Miller, ministre de l'immigration, vient de déclarer que finalement il n'y aura pas de programme massif qui va régulariser toutes les personnes sans papier. Donc c'est vraiment un programme sectoriel qui va se concentrer sur les travailleurs dans le domaine de santé, dans la construction. Donc c'est comme des programmes qui existaient déjà, donc qui sont très limités, qui permet juste une petite partie des personnes sans papier à obtenir la résidence permanente. Donc, c'est toujours problématique.
C'est ça. Donc, il va rester des centaines de milliers de personnes qui vont demeurer dans la clandestinité, probablement.
C'est ça. Oui. Par exemple, le programme pour les anges gardiens, ça a permis juste 8 000 personnes pour obtenir la résidence permanente. Mais il y a un demi-million à peu près de personnes sans papier qui attendent toujours une décision de la part du gouvernement.
Qui sont des estimations même que certains jugent conservatrices parce que certains pensent que ça pourrait même être plus de
oui,
personnes que ça.
C'est ça.
Puis comme c'est intéressant que tu mentionnais que ce sera une approche sectorielle, donc probablement qu'on va demander à chaque province de définir chacune dans quel secteur économique on manque de main-d'œuvre.
Mm-hmm.
Et ce sera uniquement sur cette base que les régularisations pourront être effectuées.
Oui, c'est ça. Donc, surtout, on parle juste des secteurs en pénurie de main-d'œuvre. Donc, dans ce cas-là, on parle justement de la contribution des personnes sans papier et on ignore un peu le côté humanitaire de leur présence sur le territoire du Canada. Donc, c'est comme si on dit il faut être utile pour être inclus dans la société.
Économiquement utile.
C'est ça. Oui. Donc, ouais, c'est problématique parce que ça ignore les considérations humanitaires. Les gens n'ont pas choisi d'être en exil. Les gens n'ont pas choisi d'avoir un statut précaire.
Ben, de toute façon, une fois dans la clandestinité, s'en sortir, c'est pas évident non plus. Mm-hmm. Pouvoir sortir du pays, même si on le souhaite, ou pouvoir régulariser, ouais. On a déjà enfreint certaines règles, donc oui. On part avec un pointage, entre guillemets, si je peux dire, qui est négatif par rapport aux autorités. Mm-hmm. Donc, intéressant, donc on verra probablement à la rentrée, il y aura une annonce de Mark Miller. On va souhaiter la plus large possible, là, parce que ça concerne quand même la vie des gens.
Ouais.
Autre titre d'article que tu as écrit dans le cadre du projet Différents sur le terrain des luttes antiracistes, itinérance et sécurité dans le quartier chinois, plus de répression ou plus de logements, tu poses la question. Donc actuellement, ce qu'on voit, c'est il y a des appels à plus de répression, je crois.
Oui, il y a une augmentation de la présence policière dans le quartier, mais évidemment, c'est pas une solution qui s'attaque à la racine des problèmes d'itinérance. Mais il y a quand même peut-être une bonne nouvelle que j'ai vue récemment, que la ville a acheté un des bâtiments abandonnés. Donc ça permettrait peut-être de développer un projet de logement social dans le quartier. Donc c'est vraiment important de fournir plus de logements pour régler le problème d'itinérance dans le quartier.
Est-ce qu'on connaît les intentions de la ville par rapport au bâtiment?
Oui, c'est ça. C'est ce qu'ils disent dans leur communiqué de presse. Ils disent que c'est dans l'intention de développer un projet de logement social.
OK, bon. Exactement. Tu vois, on prend les bonnes nouvelles où il y en a. Oui, des petites bonnes nouvelles, mais oui. Il faut quand même le souligner. Et est-ce que ce serait, parce que je ne sais pas s'il y a une grande itinérance asiatique spécifiquement, ou ce serait pour des logements sociaux abordables ou de transition pour une population itinérante générale?
En général, oui. Je dirais que ce sont des personnes en situation itinérante de toutes les origines, mais il y a surtout des personnes racisées et autochtones.
Oui, on en voit beaucoup, effectivement, ouais. dans ce secteur, entre le CHUM, le quartier des spectacles.
Mm-hmm, exact.
Autochtones, inuits même, particulièrement aussi.
Ouais.
D'autres articles, petite question, petite parenthèse, il y avait eu un groupe de travail il y a quelques années sur le quartier chinois, je ne sais pas si tu avais été impliqué là-dedans.
J'ai fait un peu de bénévolat en tant que traductrice pour traduire certaines annonces de français en mandarin parce que il y a quand même une grande population au quartier chinois qui parle juste mandarin ou cantonais.
OK, des personnes âgées, j'imagine.
Oui,
davantage.
C'est ça. Donc ces personnes-là, eux, comme ils parlent pas la langue officielle, donc des fois, c'est très difficile pour eux de s'impliquer dans le débat public, dans la discussion sur des sujets qui les concernent quand même. Donc il y a vraiment un groupe de jeunes, un groupe d'activistes qui proposent toujours des initiatives et des actions communautaires pour protéger les personnes âgées, pour les inclure dans la discussion.
Oui, ben c'est une belle initiative.
Oui, exact.
Autres articles. Oui, la Caisse de dépôt, ça c'est vraiment dans l'actualité. La Caisse de dépôt réinvestit dans une entreprise québécoise complice de la colonisation israélienne.
Mm-hmm.
Donc en lien aussi avec, on était à l'UQAM ici, donc en lien il y avait une occupation, on peut appeler ça une occupation pour au Square Victoria, pardon, aussi, devant la Caisse de dépôt.
Oui.
Ça avait été démantelé sans qu'il y ait eu de résultats. Toi, peut-être tu pensais que ça avait été un peu tombé dans l'oubli, donc tu t'es dit non, il faut rappeler ces choses-là, que la Caisse de dépôt continue d'investir dans certaines compagnies.
Oui, parce que le nouvel investissement a été annoncé très récemment. Je pense que...
Ah, c'est un nouvel investissement?
Oui, c'est ça.
Okay.
Oui, et puis c'est arrivé juste quelques jours après une conférence de presse organisée par la coalition du Québec Urgence Palestine et le collectif Désinvestir pour la Palestine. justement devant le bureau de la CDBQ pour contester, pour dénoncer leur silence et leur inaction face à leur investissement problématique. Mais justement, quelques jours après ça, la CDBQ a décidé d'annoncer un nouvel investissement dans la compagnie québécoise WSP.
C'est une compagnie de quoi exactement?
Oui, c'est une compagnie d'ingénierie et de conseil professionnel. Donc, ils sont impliqués dans la construction du train léger sur le territoire palestinien occupé. Donc, c'est leur complicité, c'est déjà dénoncée par plusieurs organismes, par une centaine d'organismes et plusieurs personnalités de longue date, mais la CDBQ a juste décidé de continuer à investir. Et puis, la CDBQ prétend aussi de respecter les plus hauts standards en termes d'éthique, en termes de protection des droits de personnes. Mais évidemment,
c'est ce qu'elle disait en réponse justement aux manifestants. Elle disait, nous, tout est validé par des...
C'est ça. Ils prétendent qu'ils ont engagé des avocats, des experts en droit international. Mais ils ne donnent pas plus de détails, ils ne donnent pas plus de justification. Ils nomment même pas c'est qui les experts qu'il prétend d'avoir engagé.
Ça me rappelle CDPQ Infra, qui était totalement opaque. D'ailleurs, ce fameux train, non seulement il permet de solidifier les liens entre les différentes colonies qui sont spatialement pas toujours reliées, plus de créer des coupures dans le territoire palestinien, donc d'affaiblir finalement la présence palestinienne en Cisjordanie.
Oui, puis ça a permis aussi le transfert des colons israéliens sur le territoire occupé.
Donc, tout ça après des beaux discours de « Non, non, notre éthique a été... » autre titre d'article que tu as signé assez récemment, « Retour sur la pandémie de COVID-19 chez les Premières Nations, risques et résilience ». Moi, j'invite aussi à lire cet article-là. Il n'y a pas nécessairement de nouveau, je pense, par rapport à ça, parce que c'est vraiment comme un constat, un portrait, finalement, de comment s'est passée la COVID chez les Premières Nations et les leçons qu'on peut en tirer aussi.
Oui.
Est-ce que malgré tous ces longs articles un peu déprimants que tu nous fais des fois, est-ce que tu demeures quand même optimiste par rapport, comme tu parlais tantôt d'un projet de la ville qui est une petite bonne nouvelle, donc ici et là, il y en a un peu. Mm-hmm. Est-ce que globalement, j'imagine que tu continuerais pas à écrire si tu n'avais pas un peu d'espoir?
Je pense que en ce moment, c'est un peu difficile d'être optimiste, surtout avec un gouvernement qui n'arrête pas d'attribuer tous les problèmes sociaux qui traînaient de longue date.
Tu parles au provincial plus particulièrement, j'imagine.
C'est ça, oui. Mmh. Donc, les immigrants sont devenus les boucs émissaires. Et aussi, je pense que partout dans le monde, les discours anti-immigrants sont en train de monter. Mmh. Et aussi, il y a aussi l'extrême droite.
Donc, en Europe particulièrement, on le voit beaucoup.
Puis aussi avec ce qui arrive au Royaume-Uni récemment. Donc je pense que c'est difficile d'être optimiste. Puis les bonnes nouvelles qu'on voit, je pense que c'est pas vraiment de manière structurelle. C'est surtout des petits projets, des petits programmes.
Des initiatives même qui ne sont pas nécessairement gouvernementales des fois, qui viennent plus du communautaire.
Oui, c'est ça. C'est les résultats, c'est les résultats des actions communautaires qui ont porté des fruits.
OK. Ouais. Intéressant. J'aimerais qu'on garde les 3/4 dernières minutes pour parler des médias indépendants au Québec. Donc, toi, ta collaboration actuelle, c'est avec Pivot.Québec. qu'on remercie, qui est une excellente source d'information, probablement une des meilleures. Je ne sais pas comment on peut décrire la structure. Moi, je me demandais si c'est une coop, c'est une OBNL. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a une équipe éditoriale qui décide un peu de la ligne à utiliser?
Mm-hmm. On est une coop de solidarité, puis on opère sur un modèle de gouvernance horizontale et démocratique.
OK, parfait.
Donc, Nous, en tant que journalistes, on formule nos propres sujets, on choisit l'angle qui nous intéresse. Et puis, des fois, on discute entre nous pour distribuer des sujets entre nous après avoir fait une revue de littérature, d'actualité. Et puis, c'est notre rédactrice en chef qui corrige, qui est responsable de la correction et de la révision. Mais ces modifications restent au niveau de la forme, de la structure du texte pour rendre ça plus clair.
On va pas travestir ton propos complètement là.
Non, jamais.
C'est ça. Ok. On va juste s'assurer.
Donc on a vraiment l'indépendance en tant que journaliste.
Ok, ouais. Super. Donc toi, t'es abouti chez Pivot via ce projet. Les médias indépendants au Québec, on sait que c'est un monde difficile. La censure de Facebook, les revenus publicitaires qui font, les fake news, l'intelligence artificielle, tous des exemples qu'on donnait. Est-ce que Pivot.Québec est en bonne santé financièrement ou je ne sais pas si tu es au courant?
Oui, en fait, je pense qu'on est en bonne santé, mais c'est sûr que je ne suis pas la bonne personne qui est bien placée pour répondre à cette question. Mais en général, on compte vraiment beaucoup sur les dons de nos lecteurs, lectrices.
OK.
Donc, notre financement, c'est en grande partie viennent des lecteurs et lectrices qui croient en médias indépendants, qui croient en notre comment dire notre valeur, notre mission en tant que qu'un journal indépendant et progressiste. Donc et aussi on a des demandes de subventions comme le projet que j'ai mentionné dont je fais partie. Et aussi, des fois, on fait des campagnes de financement, on contacte des syndicats pour des dons et on cherche aussi des collaborations avec d'autres acteurs dans le milieu. Et puis, il y a aussi, récemment, on pense peut-être vente des publicités sur notre site. Okay. Donc, il y a quand même plusieurs sources de
On verra
de
pas des annonces de Coors ou de Ford, là, quand
même. Non, oui, on fait très attention.
Des partenaires quand même qui cadrent avec la mission
oui,
de Pivot,
ça,
là, j'imagine.
Ouais.
Okay. Non, pour pas faire comme... parce qu'il y a eu quand même des événements tristes récemment. Il y a eu Ababar qui, avec une subvention perdue, remettre en question même leur existence. Je crois la revue Relations, dont le CA a besoin de s'aborder. Donc, on va vraiment espérer que Pivot.Québec demeure. On aime cette... ce média indépendant, farouchement indépendant, avec beaucoup d'informations, beaucoup de débats d'idées aussi. Et on va inviter les gens à aller consulter le projet dont tu fais partie, pivot.québec/dossier/différents-anti-racisme. Donc, ben, je te remercie beaucoup, Bifan Soon, journaliste à Pivot. On aura peut-être l'occasion de te réentendre dans notre émission.
Oui,
on verra.
J'ai très hâte. Merci.
Excellent. Merci à toi. Donc, nous, on va aller en musique. On s'en va en musique avec Asalti Frontali, une pièce anti-génocide à Gaza.
Lo fanno in Palestina, lo vendo una bambina, coi dolci alla cannella, sta sotto quella stella, fuori da una tenda, se non la vedi, togliti la benda, è preziosa, gentile, dolce, bella, è così forte, Gazzawi, gazzella, porta una speranza, pazza, va a dormire nel suo letto, si sveglia in ambulanza, hanno ucciso la tua mamma mentre andavate per mano, il cuore mi pesa, perché è un cuore umano, e questa storia ci ha preso tutti, la musica, l'azione, daranno frutti, perché l'unica cosa che ci consente sola e farti sapere che non sei sola, siamo artisti come te, gente che si somiglia, ormai ti amiamo, siamo come una famiglia.
Fatturo, ci siamo anche noi nel mondo, mettetevelo in testa, andare in altalena tra le case in rovina e fare resistenza. Fanculo, ci siamo anche noi nel mondo con la nostra potenza, persone stupende preparano il tè e fanno resistenza.
Ruba il cuore, fiore di ribellione, intorno al fuoco a ballare, battere pentole, rumori di aerei, bombe, pallottole, mangiando ceci, cuocendo il pane, tenendo il più possibile le guerre lontane, i libri di scuola, accendono falò, aggrappata alla vita, più forte che si può, apri gli occhi all'improvviso con la faccia bruciata, in barella su un calesse, la vita se n'è andata, nave alla deriva a cui manca la prua, ti fa coraggio un'altra mamma che non è la tua, e ora sei maestra, maestra di vita, sboccia energia che sembrava sparita, nel buio, tra le bare di lenzuola, mentre i bambini al mondo si preparano alla scuola.
Fanculo, ci siamo anche noi nel mondo, mettetevelo in testa, andare in altalena tra le case in rovina e fare resistenza. Fanculo, ci siamo anche noi nel mondo, con la nostra potenza, persone stupende preparano il tè e fanno resistenza.
Times Square, Trafalgar Square, Torre Eiffel, Chanel, San Pietro, i mille pezzi come uno specchio di vetro, l'Occidente non è più niente, bugiardo, coloniale, ha distrutto ogni ospedale, ogni ricordo di vita normale, la gente senza scampo, lotta ancora ed è il nostro vanto, e noi più forti di prima, perché il regista continua nel film dell'orrore e la Palestina, e dietro quella tenda, se non la vedi togliti la benda.
Fanculo, ci siamo anche noi nel mondo, mettetevelo in testa, andare in altalena tra le case in rovina e fare resistenza. Fanculo, ci siamo anche noi nel mondo, con la nostra potenza, persone stupende preparano il tè e fanno resistenza.
Genocidio, bambini innocenti, orfani, cambieranno gli eventi, faranno la storia, quando nessuno ne avrà più memoria.
Oui, Simon, qu'est-ce qu'on écoutait?
On écoutait, attends, c'est Asalti Frontelli, des vétérans du hip-hop. Agression frontale en français, le nom du band. Ils sont basés à Rome, actifs depuis 1991, avec quand même 8 albums studio complets. On les considère comme les cofondateurs avec AK-47 du mouvement musical Posse ou Posse, à la fois punk, reggae et rap, toujours très politique, résolument anti-fasciste, anti-raciste, très engagé dans la gauche populaire italienne, les groupes militants, les centres autogérés, la création d'une scène complètement indépendante. La pièce Fanculo, désolé, Fanculo, Ci Siamo Anche Noi, qui veut dire nous sommes ici aussi, et qui est un puissant manifeste contre le génocide actuellement perpétré à Gaza. Single sorti cette année qui se retrouve pas sur un album puisque leur dernier date de 2022. Et pour cet épisode, contrairement à d'habitude, on parlera pas d'enjeux Israël-Palestine. Donc cette pièce d'Asalti Frontali fait office de clin d'œil de solidarité de la part des apatrides anonymes. Donc je te laisse avec des enjeux, je te laisse le micro pour des enjeux de racisme.
Ben oui, en tout cas Asalti Frontali, très bien. Très, très bon rap électro, bien énergique.
C'était une de tes suggestions.
Ben oui, non, je sais, je l'avais découvert un peu par des réseaux, évidemment, ces réseaux pro-palestiniens. Mais l'actualité, oui, continue, on en parlera sûrement dans deux semaines. Ben oui, enjeu de racisme pour un peu dans la suite de ton entrevue avec Bifan Soun.
Qu'on salue, encore une fois.
Oui, très bonne entrevue, très intéressant. Donc, je vais commencer avec un regroupement de syndicats et d'organismes demande de nouveau au gouvernement fédéral de s'attaquer à la discrimination au sein de la fonction publique gouvernementale. La Coalition contre la discrimination au milieu de travail a dévoilé un rapport interne faisant état de discrimination envers les personnes racisées qui travaillent au bureau du conseil privé. La Coalition contre la discrimination au milieu de travail regroupe plusieurs organismes, dont le secrétariat du recours collectif noir, l'Alliance de la fonction publique du Canada, et la Coalition de la société civile des Canadiens noirs, entre autres. Le rapport met en évidence deux principaux défis au bureau du conseil privé. Le bureau du conseil privé, c'est le ministère du premier ministre, d'ailleurs. Il y a comme plus de 1000 personnes qui travaillent là. Donc, deux problèmes principaux. Un manque de compréhension par rapport à la discrimination subie par les employés noirs, autochtones et racisés, et d'importants obstacles à une représentation et une inclusion significative. Dans le rapport, les employés racisés interrogés, il y en a eu au moins une soixantaine, dénoncent les stéréotypes raciaux, les microagressions et la violence verbale dont ils disent avoir été victimes. Parmi les situations rapportées, on donne l'exemple d'employés disant ignorer que le mot en haine est grandement péjoratif pour les personnes noires. Aussi, des commentaires laissant sous-entendre que les employés racisés n'ont pas le talent nécessaire pour être promus sans la discrimination positive. Et aussi, d'une situation d'un atelier sur la diversité menée par une équipe entièrement blanche. Les employés racisés avancent aussi que les employés blancs ont généralement plus d'ancienneté et qu'ils occupent des postes de plus haut niveau que leurs collègues racisés. Le rapport interne énumère aussi une vingtaine de recommandations qui n'ont pas été rendues publiques ou mises en œuvre par le conseil privé, selon la coalition. La présidente de l'Alliance de la fonction publique, Sharon D'Souza, qui fait partie de la coalition, a qualifié le contenu du rapport de choquant, mais pas surprenant. Elle déplore qu'il expose un échec tragique de lutte contre le racisme systémique et qu'il documente des tendances affligeantes.
Les rapports se répètent année après année.
Un peu partout, hein? Ouais. C'est ça, surtout dans la fonction publique, souvent. Le bureau du conseil privé n'est pas le seul organisme public à être touché par des allégations de discrimination. Une enquête dévoilée au début de l'année a notamment révélé une discrimination raciale systémique au sein de la Commission canadienne des droits de la personne. On avait parlé à l'émission. Un regroupement a même déposé une plainte formelle contre la Commission et demandé une modification de la loi sur l'équité en matière d'emploi et la nomination d'un commissaire à l'équité noire. Selon la coalition, si la commission et le bureau du conseil privé sont eux-mêmes touchés par les allégations de discrimination, ces derniers ne sont pas en mesure de s'attaquer au problème sans supervision externe. On ne peut pas demander aux gestionnaires qui ont perpétré le racisme et la discrimination de régler ces problèmes, note la coalition en concluant son communiqué. Donc voilà, c'est les premières nouvelles dont je voulais vous parler.
Parfait.
Je continue, Simon?
Vas-y.
Le SPVM à Montréal prévoit une nouvelle politique sur les interpellations policières pour cet automne. Selon son chef, Fadi Daguerre, ce qui a soulevé la grogne de la représentante de la Ligue des droits et libertés, Linda Kellil. C'est ce qu'il a annoncé pendant une séance de la Commission de la sécurité publique de la Ville de Montréal, sans donner de détails sur son contenu. Les politiques pour encadrer les pratiques sur les interpellations policières sont de la poudre aux yeux, un écran de fumée, fustige Mme Kellil, qui espérait que le SPVM mettrait un terme à cette pratique dont les chercheurs ne voient pas d'incidence sur la prévention de la criminalité. Donc, on veut pas une nouvelle politique, on veut plus qu'il y ait d'interpellation. On en a parlé souvent ici à l'émission. Interpellation aléatoire. Pourquoi le SPVM a commandé un rapport de recherche à des experts indépendants s'il n'avait aucunement l'intention de suivre leur seule et unique recommandation, demande-t-elle. Mme Kellil reproche au chef d'Aguerre de tenter de faire croire qu'il y a eu de multiples recommandations dans le rapport, alors qu'il n'y en avait qu'une seule, un moratoire sur les interpellations policières qu'il a refusé de suivre lui-même.
Il voulait un rapport qui correspond plus à ses attentes.
Ben voilà, tu sais pas si bien dire. Le chercheur Massimiliano Mulone, qui a participé à la recherche et consigné le rapport de 285 pages publié l'été passé, corrige le tir. Je le cite, « C'est simple, il n'y a eu qu'une seule recommandation, prétendre le contraire est de la mauvaise foi », affirme-t-il. La nouvelle politique remplacera celle de 2020, qui est qualifiée d'échec par les chercheurs indépendants. La fameuse étude démontrant que le profilage racial avait augmenté à Montréal, la fameuse étude que 20 chances de plus pour les personnes noires, 10 pour les personnes arabes de se faire discriminer.
Ouais, autochtones,
etc., les hommes, les femmes. D'ailleurs, les chercheurs dénoncent l'ingérence et la pression exercée par le SPVM afin d'encadrer l'étude qui est sortie l'an passé, qu'ils ont menée sur le racisme et sur la politique d'interpellation au sein du corps policier. Donc, ça va très bien. La police de Montréal est dans son chemin tout seul de son côté, écoute personne, et dit en plus, Fadi Daguerre, le grand Fadi Daguerre, qui invente que d'autres recommandations dans le rapport, donc il n'y en avait qu'une seule, c'était éliminer les interpellations policières. En terminant, Simon, en parlant du SPVM, une suggestion de lecture de quel média, tu penses?
Pas de Pivot.Québec.
Hey,
signé qui?
Léa Beaulieu, Kratchanov, quand même. Daté du 24 juillet 2024. L'article s'appelle « La ville défend l'indéfendable. Montréal assume les frais d'avocat pour des policiers qui tuent. » La ville de Montréal a dépensé près de 167 000 $ pour assurer la représentation juridique de 4 policiers impliqués dans le décès.
La ville ou la fraternité?
La ville. Non, c'est pas la fraternité qui paye. Ben non. C'est l'employeur. La représentation juridique de 4 policiers impliqués dans le décès de Corey Kevin Selick. C'est un jeune homme qui est mort au terme d'une intervention policière à son domicile à l'Île-Bizarre en mars 2017. 4 agents du SPVM avaient été envoyés sur les lieux à la demande des parents de M. Selick qui craignaient que leur fils ne conduise en état d'ébriété. Quand les policiers sont arrivés, les parents ont dit « C'est beau, tout va bien, vous pouvez vous en... » Ça s'est réglé, mais ils ont décidé d'intervenir quand même. Ça a fini par la mort du jeune homme. Et là, les frais payés par la ville, Simon, c'est en déontologie policière, l'enquête du coroner et aussi l'enquête du BEI. Fait que c'est complètement délirant.
Ben ouais,
c'est... Fait que voilà, fait que ça coûte une fortune pour défendre des policiers qui essaient de se justifier, malgré que le coroner a dit que c'était inacceptable comme intervention. Donc... voilà, mon cher.
Quelques notes de musique, on retrouve Mathieu encore une fois.
Je vais préparer mon deuxième bloc.
Vas-y.
We'll be right back.
On s'en va en Amérique latine, Amérique du Sud pour le moment. Donc, en Colombie, la juridiction spéciale pour la paix, la JEP, a reconnu récemment les peuples autochtones Arhuaco, Kogi, Wiwa et Canquamo comme victimes de graves crimes, au même titre que leur territoire ancestral de la Sierra Nevada de Santa Marta, situé au nord du pays, devient aussi donc une victime du conflit armé. Ce tribunal a été mandaté en vertu de l'accord de paix signé par le gouvernement colombien et les FARC en 2016 de traiter des violations des droits de la personne commises par les deux côtés lors du conflit armé. Les répercussions de cette guerre intestine ont été particulièrement catastrophiques pour les nations autochtones qui ont été conduites au bord de l'extermination physique et culturelle. Parmi les actes de violence mis de l'avant figurent des assassinats, des disparitions, des déplacements forcés, de la torture. L'impact du conflit armé sur la situation des femmes autochtones a aussi été établi. Elles auraient notamment subi des violences sexuelles. Pas surprenant. Quant au territoire ancestral de la Sierra Nevada, les magistrats ont conclu que de grands préjudices y avaient été commis, notamment la destruction de nombreux écosystèmes et la profanation de sites sacrés. Certains repères culturels des groupes autochtones concernés ont disparu par conséquent. Ces torts au territoire ont également fragilisé leur sécurité alimentaire et ébranlé leurs pratiques de médecine traditionnelle. L'association par la JEP de ces terres comme entité juridique susceptible de subir des préjudices s'inscrit dans une attestation plus large de la validité des ordres juridiques autochtones et de leur droit à l'autodétermination. La JEP a d'ailleurs exigé du ministère de la Défense et de l'Armée nationale colombienne de rendre compte du processus de consultation qui a pour but le retrait de la base militaire et d'autres installations étatiques pernicieuses dans la région. Des sanctions à l'endroit des principaux responsables des exactions sont attendues avec impatience par les groupes autochtones aussi. Ça, c'est pour la Colombie. En Équateur, le peuple Waorani et des ONG ont exigé la suspension de l'extraction pétrolière dans une région emblématique d'Amazonie équatorienne en application du résultat positif d'un référendum qui s'est tenu en août 2023. L'Équateur a dit qu'il ne voulait plus de l'extractivisme dans le bloc 43, a déclaré Zenaida Yasakama, vice-présidente de la Confédération des nationalités autochtones de l'Équateur, à l'occasion d'une manifestation à Quito cette semaine.
Bloc 43, j'imagine, c'est des concessions.
Exact. Des parties territoires qui ont été concédées, t'as raison. Il y a un an, 59% des électeurs équatoriens ont voté pour mettre fin à l'activité pétrolière dans une partie du parc national de Yasuni, où vivent plusieurs communautés autochtones, dont certaines en isolement volontaire. Le résultat de la consultation prévoyait l'arrêt progressif de l'extraction dans un délai d'un an. Le gouvernement a néanmoins continué à extraire plus de 50 000 barils par jour. Mais le gouvernement a déclaré cette semaine, dans un communiqué, que l'engagement du président Noboa pour cesser la production pétrolière reste ferme. Occupant 0,08% du million d'hectares du parc amazonien protégé, le bloc 43 est le plus grand producteur de pétrole du parc Yasuni et contribue à hauteur de 10% de la production nationale équatorienne. L'année dernière, l'Équateur a estimé que la fermeture du bloc entraînerait des pertes de 17 milliards de dollars sur deux décennies. Mais c'est important, il y a eu un référendum, c'est quand même assez impressionnant.
C'est principalement du pétrole qui est extrait de...
C'est vraiment du pétrole.
OK.
Oui, tout à fait. Oh, oui, tout à fait du pétrole. Dernier sujet, Simon, le retrait de Joe Biden aura quelles conséquences sur les Premières Nations du pays qui ont établi des relations fortes avec son administration?
Écoute, je ne saurais répondre à cette question.
J'ai peut-être quelques éléments de réponse, Simon.
Je t'écoute avec intérêt.
Plusieurs assurent que l'administration Biden a été l'une des administrations les plus ouvertes envers les Autochtones américains. Ah ouais. Il n'y a jamais eu dans toute l'histoire du pays autant d'Autochtones nommés à des fonctions politiques fédérales importantes. À toutes les échelles, dans les États ou au Sénat, il y a eu des nominations d'Autochtones, dont un certain nombre dans des postes très importants au sein du gouvernement. En janvier 2021, Joe Biden avait présenté ses intentions en signalant l'engagement de son administration à renforcer ses relations avec plus de 570 Premières Nations et communautés autochtones de l'Alaska. Ça, c'était au début de son mandat.
Okay.
Le président américain avait alors annoncé plusieurs de ses priorités, telles que le respect de la souveraineté et de l'autonomie des communautés, ou la consultation régulière avec les nations concernées. L'administration a pris des actions historiques pour améliorer la vie de plus de 5 millions d'Autochtones, surtout en matière environnementale, c'est-à-dire que les autorités fédérales investissent d'une manière sans précédent, notamment dans les infrastructures. Elles ont aussi mis en place des mesures gouvernementales pour aider les communautés autochtones à faire face aux effets des changements climatiques. Le gouvernement a débloqué plus de 13 milliards de dollars pour aider les communautés dans leurs efforts d'atténuation de la sécheresse ou l'amélioration de l'approvisionnement en eau, dont souffrent particulièrement les Premières Nations du sud des États-Unis.
Oui, c'est encore même plus problématique qu'au Canada.
Exact. Mais les besoins sont énormes et il y a toutefois beaucoup de travail encore à faire parce que c'était du rattrapage de décennies où il ne s'est rien passé. Donc, en appuyant la candidature de Kamala Harris, Biden devrait faire en sorte que ces politiques se poursuivent dans les grandes lignes avec elle, mais ça, c'est des choses, ça va être à vérifier dans la real politique.
Effectivement.
Voilà, mon Simon.
On va aller en musique, donc, avec Pataugeoire.
Yeah!
Une impression de surplace, pendant que mes souliers éclatent l'asphalte, chaud et mouillé, je n'ai plus de feu, laissez-moi boire un peu. Que je me pantoumousse. Est-ce que j'ai la flemme ou est-ce que j'en vaux la peine? Tu te caches dans ta chambre. Une heure du matin, je t'épluche un pamplemousse. Je sais que tu la flemme.
Entendait Pataugeoire, le projet de l'autrice-compositrice Agathe Dupéré, qui a sorti récemment un album fort sympathique, très original, rempli de collaborations, celle-ci avec Thierry Larose. Le titre « Combien ça coûte? » Le titre de l'album, c'est « Party Piscine Volume 1 », ce qui laisse entrevoir une probable suite.
L'album, un autre party de piscine?
Écoute, l'été n'est pas fini. Hein? L'album figure au palmarès local de Choc. Agathe Dupéré qualifie son style de émo, aquatique, kaléidoscopique et boisé. Il y a deux spectacles prévus le 20 septembre au bistrot La Chasse-Peinte à Lens-Saint-Jean et le 14 novembre au Ministère à Montréal dans le cadre des coups de cœur francophones.
Ah, ça doit être bon en show. Ouais.
En show, oui, c'est un peu déjanté aussi, j'aime bien, puis ouais, joyeux. Ouais. Là, donc,
c'est dans le palmarès, évidemment. Hein,
c'est dans le palmarès local de Choc. Donc, je vous ai promis des actualités britanniques, entre les émeutes de l'extrême droite, souvent basées, comme d'habitude, sur une fausse nouvelle, l'élection d'un nouveau gouvernement qui promet de renverser plusieurs décisions prises par les premiers ministres conservateurs successifs. Je pense qu'ils ont été 19 dans la dernière année. Donc, il y a beaucoup à dire, mais je veux quand même d'abord vous parler un peu de la Manche et de l'Irlande. Sur la Manche, d'abord, les morts et les interceptions de migrants se succèdent à un rythme toujours croissant. Il y a eu un décès fin juillet, une femme de 21 ans, originaire du Koweït, qui est morte non pas par noyade, comme c'est souvent le cas, mais en raison d'un malaise dû au fait que c'était tellement tassé sur la trop petite embarcation où elle se trouvait avec 75 personnes, une sorte de grand canot. Elle en est morte par de suffocation, type de décès qu'on constate de plus en plus, tout comme les décès par bousculade ou par piétinement, qui sont susceptibles de se produire sur les embarcations surchargées, entre autres quand les gardes-côtes français ou britanniques interviennent ou quand le temps est très mauvais. Le décès de la jeune femme a été constaté alors que les autorités maritimes transféraient les migrants vers un de leurs navires pour les ramener vers la côte française. Ça porte le nombre de migrants décédés sur la Manche en 2024 à 25, alors que pour toute l'année 2023, on en comptait 12. Donc, on risque de finir avec une augmentation d'à peu près 2, 3, 400%. Quelques mots maintenant sur l'Irlande, dont la Cour suprême ou High Court a fustigé le gouvernement qui ne respecte pas à la fois ses propres lois et le droit européen. Je paraphrase le jugement, traduction de moi-même. Le gouvernement nie le droit à la dignité en ne fournissant pas un logement adéquat et un accès à des installations d'hygiène de base et aux produits de première nécessité. Les migrants doivent donc passer jusqu'à plusieurs semaines à la rue avant d'envisager pouvoir peut-être obtenir de l'aide de l'État. En résulte des campements de tentes au centre-ville de Dublin qui sont constamment démantelés par les forces policières, mais qui évidemment se reforment assez rapidement à quelques coins de rue. Le jugement est assez sévère, mais malheureusement, il est non contraignant. Faut dire aussi qu'il existe des camps officiels gérés par les autorités, mais dont les conditions sont considérées comme tellement mauvaises que beaucoup de migrants préfèrent encore rester à la rue. Migrants dont les trois principales origines en Irlande sont Nigeria, Algérie et, tu devineras jamais, Mathieu?
Pakistan.
Géorgie.
Géorgie, ah ben oui, ben un oui. Pays européen, ben oui, ben oui.
Sinon, en Angleterre, ce qui a marqué les esprits dans les dernières semaines, c'est les fameuses émeutes racistes d'une ampleur peut-être pas sans précédent, mais disons que dans les 2-3 dernières décennies, je crois que c'est sans précédent, dans plusieurs villes à travers tout le Royaume-Uni, sur la base d'une fausse nouvelle relayée sur les médias sociaux en lien avec les meurtres, eux qui sont bien réels, de trois jeunes filles fin juillet, mais attribué à tort à un migrant musulman par des figures actives de l'extrême droite britannique. Mm-hmm. Le suspect dont l'identité a été dévoilée par la suite, après un certain temps, il a 17 ans, il n'est ni migrant ni musulman, c'est un citoyen britannique né au Pays de Galles. Et malgré tout, ça n'a pas réussi à calmer le jeu et à mettre fin aux violences homophobes qui sont poursuivies quelques jours après même l'annonce de son identité. Mm-hmm. Le fait qu'il ait moins de 18 ans explique pourquoi, justement, son identité n'avait pas été dévoilée plus rapidement.
Tu as dit homophobe, hein? Tu voulais dire xénophobe, j'imagine?
Islamophobe.
Islamophobe,
c'est oui. Ça. Pas pareil.
Non, c'est ça.
Merci de la correction. Je vous donne quelques exemples de débordements qui se sont produits. Des logements pour réfugiés saccagés et couverts de graffitis haineux. Il y a même un hôtel hébergeant des demandeurs d'asile qui a été incendié. Des commerces pillés, des routes bloquées où on ne laisse passer que les blancs et les vrais Anglais, ben en guillemets. C'est vraiment sauvage. Une foule traînant un homme musulman hors de sa voiture pour le battre. Un autre homme, un musulman lui aussi, carrément poignardé en pleine rue. Une femme portant le hijab frappée au visage alors qu'elle tient son bébé. Des foules qui crient « kill them » devant des mosquées. La violence, la durée et l'ampleur des émeutes racistes ont surpris beaucoup de monde. Ça dépassait de loin les cercles restreints des groupuscules d'extrême droite. Beaucoup se désolent aussi de la faiblesse de la riposte antiraciste qui a été non seulement relativement timide, mais assez lente à se mettre en place.
Ouais.
On se questionne aussi sur le pouvoir d'influence finalement assez important de quelques comptes extrémistes sur différentes plateformes en ligne,
ouais,
qui, on l'espère, vont être fermées éventuellement. Beaucoup d'observateurs sont aussi choqués de constater que la majorité des participants aux émeutes étaient des personnes non organisées, des individus lambda ou ordinaires qui n'appartiennent à aucun groupe identifiable et qui n'affichent pas de quelconque signe raciste ou nationaliste. Donc tout ça pour dire qu'on se demande de plus en plus si au Royaume-Uni, le Britannique moyen, qui est exposé à des discours xénophobes depuis des décennies, ne serait pas lui-même devenu un militant raciste en dormance, prêt à être réveillé à la moindre rumeur attribuant un crime à une personne immigrante ou racisée, et surtout musulmane.
Ouais.
On avait d'ailleurs été témoin d'un scénario presque identique à Dublin il y a à peine quelques mois. Ça n'a pas généré des émeutes aussi considérables, mais tout de même.
Mais c'était la question de l'hébergement, comme tu as parlé tantôt, là. Exactement.
Oui, exactement. Ouais. Donc, beaucoup d'antiracistes se posent toutes sortes de questions, en plus de chercher les meilleures solutions pour déconstruire les bases de ce sentiment raciste qui semble désormais bien enraciné dans la population générale. Pour faire le tour des enjeux, je vous invite à lire un texte de Richard Seymour, politologue, auteur et fondateur de la revue Salvage, dont la traduction en français a été relayée, entre autres, sur Contretemps et sur Presse-toi à gauche, avec comme titre « L'horreur au cœur de la farce sur les émeutes racistes au Royaume-Uni ». C'est un très long texte, donc ça prend peut-être en tout cas un certain temps à lire. C'est assez fouillé, mais c'est très bien fait. Facile à digérer, mais dont les constats sont quand même assez durs. Deux petites brèves anglaises rapidement. D'abord, suite à l'élection du nouveau gouvernement travailliste et sa promesse de laisser tomber le plan Rwanda, il y a eu fin juillet expulsion par avion analysé de 46 migrants vers le Vietnam, premier arrêt, puis destination finale le Timor oriental. Donc, on abandonne l'idée des expulsions de masse vers le Rwanda ou la sous-traitance par le Rwanda de l'hébergement des migrants, des demandeurs d'asile pendant que leurs demandes sont traitées. Mais on compte multiplier les renvois vers les pays d'origine des migrants ou vers les pays limitrophes de ces pays-là. Ce qui m'a permis d'apprendre que ces deux pays, Vietnam et Timor oriental, seraient parmi les premières nationalités à traverser la Manche.
Ah oui, hein?
Oui. Et puis, je pourrais pas expliquer nécessairement le contexte géopolitique, mais ce sera fouillé pour un prochain micro. Bref, en ce qui concerne les demandes d'asile et les réfugiés, pour qui espérer un peu de répit suite à l'élection d'un gouvernement plus à gauche, ça risque d'être une très grande déception.
Comme d'habitude.
Et ouais. Oui, Anne, les sauveurs, ça n'existe pas. Je termine avec une nouvelle plutôt positive. Les ressortissants afghans qui avaient évacué Kaboul en août 2021 lors du retour au pouvoir des talibans pourront finalement bénéficier du regroupement familial. Ça a été récemment annoncé et ça concerne environ 6400 Afghans et Afghanes qui sont actuellement sur le territoire britannique. Ça ne concerne pas tout le monde qui a fui l'Afghanistan depuis 3 ans. Il sera environ 23 000 en tout, mais seulement ceux et celles qui ont été évacués entre le 13 et le 28 août 2021. Je ne sais pas pourquoi on limite à ce point, mais ça reste quand même une excellente nouvelle pour des milliers de personnes. Peut-être qu'on élargira éventuellement le regroupement familial à tous ceux et celles qui ont fui l'Afghanistan et qui, bien souvent, doivent emprunter les routes clandestines pour rejoindre leur famille, dont la traversée de la Manche. Peut-être pour finir, avant de passer en musique, avec quelques notes de musique, suite aux émeutes, Mathieu, on apprenait récemment qu'il y a eu des centaines d'arrestations et même des condamnations.
Hein. Oui, des centaines d'arrestations pendant les émeutes qui sont pas mal terminées actuellement. Là, ça a traîné un peu à Belfast puis en Irlande du Nord, mais ça a l'air terminé. Puis il y a eu des condamnations un peu expéditives. Là, c'est des nouveaux systèmes un peu. Bon, les gens plaident coupables, mais quand même, être condamné en 2 semaines, c'est un peu spécial. On peut se questionner là-dessus. Mais il y a eu des gens condamnés à la fois pour des actes de violence, mais aussi pour des propos en ligne, des gens ordinaires qui avaient dit « Allez brûler tel hôtel, c'est à côté de chez nous, je le connais », qui ont été condamnés à 2 ans de prison. C'est quand même assez intense.
C'est assez intense, mais ça envoie peut-être un signal aussi. Puis même, je sais pas si peut-être c'est exagéré, mais on condamne aussi des gens qui ont partagé l'information sans l'avoir créée.
Exact.
Donc,
aussi.
Ça peut être le petit monsieur de 56 ans.
Ah, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a toutes sortes de gens. J'ai hâte de voir si les responsables, entre autres, de l'England Defence League, là, qui ont été pas mal, là, c'est l'extrême droite britannique, si eux vont être poursuivis. Là.
Ouais. C'est ça, parmi lesquels qui ont fabriqué la rumeur à l'origine de ces émeutes-là. Ben, écoute, je sais pas si on est prêt pour quelques notes de musique, puis ensuite on te retrouve avec d'autres actualités.
Parfait. Il y a 4 semaines, à notre dernière émission, j'avais parlé de l'équipe paralympique des réfugiés pour les JO. Là, je vais vous parler brièvement de l'équipe olympique des réfugiés, parce que la boxeuse camerounaise qui vit maintenant en Angleterre, Cindy Ngamba, a remporté une médaille de bronze, une première pour l'équipe olympique des réfugiés, qui a vu le jour aux Jeux de Rio en 2016. Et entre parenthèses, au premier tour, elle a battu la championne du monde, qui est une Québécoise, s'appelle Tamara Thibault. Au total, 36 athlètes, 23 hommes et 13 femmes, composaient l'équipe olympique des réfugiés aux JO de Paris, venus d'Afghanistan, de Syrie, d'Iran, du Soudan, du Sud-Soudan, de la République démocratique du Congo, d'Érythrée, d'Éthiopie, du Cameroun, de Cuba et du Venezuela. L'annonce de cette équipe inédite avait été faite en 2015, année marquée par le déplacement de millions de personnes, notamment en Syrie. Et depuis, elle est absente des Jeux d'hiver, mais aux Jeux d'été, elle avait 10 athlètes à Rio en 2016, 29 à Tokyo en 2020 et là, 36. Donc voilà pour
Je vous fais quelques petites nouvelles autour des Jeux olympiques.
Tu nous refais la liste des pays. Non, je te niaise.
Faut que tu m'en nommes un que j'ai nommé, Simon.
Érythrée.
Bravo. À quelques jours du début des Jeux olympiques, Amnesty avait accusé la France de discrimination raciale fondée sur le sexe en raison de sa décision d'interdire à ses athlètes de porter le hijab pendant les Jeux de Paris. Un nouveau rapport indiquait que cette interdiction faite aux sportives bafouait le droit international relatif aux droits humains et révélait l'hypocrisie discriminatoire des autorités françaises. Amnesty avait auparavant fait un appel au CIO pour lui demander d'intervenir afin d'annuler la décision française ministérielle, une décision contredisant celle du CIO qui autorise le port du hijab pendant les Jeux olympiques sans aucune restriction. En réponse, le CIO a affirmé que l'interdiction des couvre-chefs sportifs imposée par la France ne relevait pas de sa responsabilité et a déclaré que la liberté de religion est interprétée de différentes manières dans différents États. Pourtant, les organisateurs des JO français ont, depuis le début, défendu l'inclusivité et la diversité des Jeux.
Mais seulement pour les cérémonies d'ouverture.
Ouais, c'est ça, exactement. Et tout ce qui est autour. Sinon, ben concrètement, sur le terrain en France, au niveau des personnes migrantes, le collectif Le Revers de la Médaille, pas pire mot, hein, pas pire nom, affirme qu'entre mai et juillet...
Ben, ils sont actifs depuis plusieurs mois pendant la préparation des Olympiques.
Exact. Mais le Revers de la Médaille, c'est toujours assez drôle. Donc, ils ont affirmé qu'entre mai et juillet, 42 campements de migrants à Paris et de sa région ont été démantelés par les autorités, soit 2572 personnes expulsées de leur lieu de vie informel. Un chiffre en nette augmentation par rapport à une période semblable
normale,
en 2023, où 29 camps avaient été évacués, non pas 42. Le collectif estime que cette stratégie visait à cacher la misère aux yeux du monde à l'heure des Jeux olympiques. Évidemment, ça se fait juste avant les Jeux. Par exemple, plus de 330 migrants ont été évacués du parvis de l'hôtel de ville du 18e arrondissement de Paris, sur lequel ils s'étaient installés le 26 juillet pour réclamer un toit, soit trois jours avant le début des Jeux. Parallèlement, toujours selon les chiffres du collectif, la part des personnes mises à l'abri, c'est un terme bureaucratique français, a augmenté, 345 en 2021 contre 1043 en 2024. Ce qui fait qu'un membre du collectif s'est demandé comment cela se fait-il que ces places soient libres maintenant, alors que jusqu'ici cette année, on nous disait toujours que c'était plein partout. Fait qu'ils ont trouvé des places pour des gens dans la rue, comme par hasard.
Ben oui, hein?
Ben oui, hein? Ben c'est ça. Sinon... accusé de nettoyage social à l'occasion des JO, le gouvernement français a mis en avant la création de, attache-toi, 200 places d'hébergement pérennes pour « grands marginaux », entre guillemets. Les associations d'aide aux migrants dénoncent une campagne de communication destinée à cacher les nombreuses expulsions de ces derniers mois en Île-de-France et craignent que les remises à la rue se multiplient à la rentrée dans quelques semaines. Le 12 août, le président français a salué l'héritage social des JO de Paris avec le relogement de 216 grands marginaux. On entend par là des sans-abri qui étaient à la rue dans la capitale depuis de longues années.
Ouais, puis qui étaient probablement au compte de 50, 60, 70 000, je sais pas.
Ben oui, c'est ça, exactement. Puis on parle même pas des migrants, puis on parle même pas de tout ça. Là, fait que...
Grands marginaux.
Grands marginaux, exactement. Donc, ben c'est ça. Ce qui fait dire à Yann Manzi, fondateur d'Utopia 56, je le cite, « Ils n'ont honte de rien. On demandait 7000 places à Paris, ils nous en donnent 200 et ils osent parler d'héritage social des Jeux. La vérité, ce sont des dizaines de familles qu'on balance tous les jours dans les rues, des mineurs isolés sans solution et des hôtels qu'on a fermés avant, pendant et après les Jeux olympiques. Oui. » Donc, il y a beaucoup de craintes pour la rentrée parce qu'on va revenir à la normale. Il va peut-être avoir moins de démantèlement de camps et de répression directe, mais les places qui étaient apparues ne seront plus apparues et l'héritage social n'existe pas non plus. Donc, voilà, Simon.
Bon, ben écoute, ce sera déjà dans quelques secondes la conclusion de cette émission.
Oui.
Et oui, déjà tout pour cette édition estivale des Apatrides Anonymes. On espère que vous avez apprécié. Je vous laisse nos coordonnées. Évidemment, tous nos balados sont en rattrapage sur choc.ca. On a une page FB avec des liens vers des événements et du contenu, des événements, oui, canadiens, mais du contenu non canadien en raison de la censure de Meta. Notre site web, c'est apatridesanonymes.info et on a une adresse courriel apatridesanonymes@resist.ca. On peut nous entendre sur les ondes de Radio Victoria, la seule radio communautaire francophone de Colombie-Britannique au 107.9 FM. Bonjour à tout le monde qui nous écoute là-bas. C'était Simon à l'animation, réalisation, Mathieu aux chroniques et à la mise en onde. Merci beaucoup, Mathieu.
Ben merci à toi.
Ça fait plaisir. Beaucoup de contenu encore une fois. On a joué un peu plus à la chaise musicale en l'absence de Marie-Ève qu'on retrouve normalement dans deux semaines.
Deux semaines, le 5 septembre.
Merci beaucoup aussi à notre invité, la journaliste à Pivot.Québec, Bifansun. C'était très intéressant. On espère la revoir.
Si tu me permets, Simon, oui, juste dire que dans deux semaines, on va être en pleine rentrée à l'UQAM, la semaine du 3. Du 2-3, et qu'il y a plein de spectacles gratuits à la Place Pasteur toute la semaine organisés par Choc.
Il y en a un même le jeudi où on va être là.
Exactement.
Entre autres.
Fait que les gens peuvent venir à Place Pasteur, peuvent venir passer faire un tour à Choc. C'est vraiment la rentrée dans deux semaines, donc plein de spectacles gratuits et d'activités.
Donc, l'invitation est lancée. Donc, ce sera pour nous, en tout cas, le jeudi 5 septembre avec le grand retour de Marie-Ève dans la formule habituelle en Power Trio.
Yes.
On se laisse en musique avec un autre power trio, presque aussi power que nous, Locrian de Chicago, un son métal, mais quand même relativement planant. Mathieu, je sais pas si tu veux trisquer avec un style...
Il y a un peu d'électronique, un peu industriel. Il y a des claviers, même s'il y a une grosse voix méchante. Je les ai vus en spectacle au Fouf il y a quelques semaines.
Grosse voix, scream un peu.
Ouais, un peu criarde.
Donc, épreuve des faits, eux se décrivent comme un assemblage de death metal des années 90, de black metal, d'électro, de drone, de noise et de krautrock. Donc, tout un mélange.
Puis, il y a un petit côté mélodique quand même là-dedans.
Ça se digère bien. Là. Donc, la pièce qu'on va entendre, c'est Excarnate Light de l'album End Terrain.
Terrain.
Sorti en avril dernier, donc on se laisse avec Locrian. Merci d'être à l'écoute. Bonne suite d'été. C'est pas fini l'été. Restez informés et à dans deux semaines. Bonne soirée.
À bientôt.